vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11. Nous étions il y a quelques semaines de cela déjà. Et nous lirons aujourd'hui à partir du verset 19, Actes 11, verset 19. Ce message se situe donc dans cette série Antioche, une église missionnaire. Et c'est aussi un message préparatoire au projet de rentrée, comment rentrer dans cette vision que Dieu place maintenant devant nous. Et le titre de ce message, si je dois en donner un, c'est une église missionnaire et intentionnelle. Acte 11, à partir du verset 19. Les apôtres, excusez-moi, cependant, qui avaient été, je recommence, verset 19, je me mélange dans mes versets. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Et pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Dans le premier message de cette série, nous avons considéré l'arrière-plan dans lequel s'inscrit le développement de l'église d'Antioche. Elle était le fruit de l'œuvre accomplie à Jérusalem et dans toute la Judée-Samarie depuis la Pentecôte. Mais en même temps, nous allons le voir, cette église se développa indépendamment de celle de Jérusalem, avec d'autres leaders, une autre vision et un autre impact. Quand j'ai commencé cette série, j'ai parlé d'un transfert du chandelier missionnaire et apostolique de l'église de Jérusalem vers l'église d'Antioche. Et l'une des raisons de cela est que l'église de Jérusalem avait plutôt subi que souhaiter et accompagner les évolutions dans lesquelles le Seigneur l'avait conduite. Et cette Église avança donc dans le plan missionnaire de Jésus avec hésitation, je dirais même avec retard et à coups de crise successives. Jusqu'à ce que la dynamique de croissance de l'Évangile impulsée par le Saint-Esprit ne la dépasse complètement. Est arrivé un moment où cette église de Jérusalem ne fut plus capable de suivre le Saint-Esprit là où il voulait l'amener. Et vous savez, je prie pour mon ministère, je prie pour notre église, pour que nous soyons toujours capables de suivre le Saint-Esprit là où il veut nous amener. Ne croyez pas que ce soit une chose simple et acquise. Car le Saint-Esprit est toujours en mouvement. Et ce n'est pas facile d'être à sa suite. Car cela implique beaucoup de changements de mentalité, beaucoup de remises en question, beaucoup d'efforts. Et beaucoup d'églises et de ministères qui ont commencé par suivre le Saint-Esprit, un jour ont fini par dire « Tu vas trop loin pour nous ». Que le Seigneur nous donne encore dans sa grâce la force de pouvoir le suivre encore plus loin. Et qu'il renouvelle ainsi notre vision. Je viens de parler de l'église de Jérusalem, et maintenant, si je tourne nos regards vers celle d'Antioche, nous avons là une église qui, au lieu de subir et de courir après les avancées du Saint-Esprit, les a quelque part provoquées, accompagnées, anticipées presque, au point qu'elle devint un modèle abouti de l'église selon la pensée de Jésus, c'est-à-dire une église sans distinction ethnique ou religieuse. Et elle devint surtout une église missionnaire, prête à tout oser pour l'avancement du règne de Dieu dans ce monde. L'expression a déjà été employée par plusieurs et elle convient tout à fait à cette assemblée d'Antioche. Elle était non seulement une église missionnaire, elle était aussi une église intentionnelle. Elle ne subissait pas, mais elle agissait volontairement dans ses choix, son orientation, sa vision, sa manière de vivre et de travailler dans son environnement, et elle fut en grande bénédiction. Nous concernant, nous ne pouvons nous engager dans une vision qui nous conduit au-delà de Bastille, dans ce projet d'établir, comme je le disais il y a 15 jours, des églises tentes pour couvrir cette ville de Paris. Nous ne pouvons nous y engager à reculons, en subissant le mouvement du Saint-Esprit. Il nous appartient au contraire, comme à Antioche, d'être intentionnel, de désirer, d'être prêt à saisir les opportunités, d'être prêt à aller de l'avant sans que le Seigneur nous y pousse ou nous amène les choses toutes prêtes sur un plat. Dans un deuxième temps, je parlerai de l'église d'Antioche, et je dirai d'elle qu'elle est donc cette église missionnaire et intentionnelle, mais je veux encore rester un instant sur l'église de Jérusalem et vous parler d'une église missionnaire malgré elle. Le début de notre texte au verset 19, qui nous parle de ceux qui ont été dispersés par la persécution, nous ramène à un verset du chapitre 8, verset 4 des Actes des Apôtres, où après la persécution et la mort d'Étienne, il est écrit que ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Au moment de la mort d'Étienne, il y a donc eu une période difficile pour l'Église, et beaucoup ont quitté Jérusalem. Ils ont gagné les contrées environnantes, notamment la côte phénicienne, c'est-à-dire la côte du Liban aujourd'hui, et certains se sont même embarqués pour l'île de Chypre, d'autres partirent pour l'Afrique du Nord, et d'autres partirent encore pour Antioche, dans le nord de la Syrie, qui était à l'époque la troisième ville de l'Empire romain après Rome et Alexandrie en Égypte. Et ce furent là les premiers pas missionnaires de l'Église. Pour la première fois, l'Église quittait donc Jérusalem et la Judée. Mais il est difficile de dire que ces premiers pas missionnaires étaient intentionnels. Car c'était à cause de la persécution qu'ils quittèrent Jérusalem et non par vision ou par conviction. Toutefois, dans les lieux où ils arrivèrent, ils ne se replièrent pas sur eux-mêmes en disant « nous ne savons pas ce qui va nous arriver là où nous sommes maintenant ». Au contraire, ils ont quand même témoigné du Seigneur Jésus. Depuis plusieurs années, il y avait donc un feu puissant à Jérusalem. Le jour où la Pentecôte avait éclaté, le Saint-Esprit avait allumé un brasier. Et dans cette ville, des choses extraordinaires s'étaient passées. Au point qu'il est écrit que la ville était remplie de l'Évangile. Et peut-être que ceux à Jérusalem pouvaient se dire, c'est bien, nous avons fait notre travail. Mais ce n'était pas là la vision du Seigneur. Lui désirait que ce feu s'étende bien au-delà des limites de cette ville. Dieu voulait embraser le monde. Le problème, c'est qu'il rencontrait des réticences de la part des disciples et même des leaders. Face à ces réticences, le Seigneur a donc employé ce que j'appellerais la stratégie du pompier pyromane. Je m'explique. À travers un homme qui voulait éteindre le feu du Saint-Esprit, Dieu embrasa le monde. Vous savez qu'un grand incendie commence souvent avec un vent qui emporte avec lui des braises. Vous savez, dans le sud de la France, en Provence ou dans les Garrigues, un buisson s'enflamme et, pas de chance, la tramontane ou le mistral souffle et voilà que quelques braises s'en vont un peu plus loin et le feu, très rapidement, se répand. Il y avait un homme dans sa colère, un certain Saul, qui voulut éteindre les premières flammes du feu du Saint-Esprit. Mais dans sa colère, il souffla sur l'église et il ne fit que disperser. Ses flammes un peu plus loin. Et Saul fut responsable d'une première phase d'expansion de l'Église, non pas comme prédicateur, mais comme persécuteur. Dieu transforme toujours le mal en bien. Et c'est ainsi qu'à travers Saul et les hommes violents qui étaient avec lui, Jésus suscita une génération de missionnaires malgré eux. Malgré eux, parce que s'il n'y avait pas eu Saul, ils seraient peut-être restés toute leur vie à Jérusalem. Mais à cause de Saul, ils sont partis dans les contrées voisines. Et ils allèrent prêcher ainsi l'Évangile. Ils étaient néanmoins courageux. L'histoire de l'Église est pleine d'exemples où Dieu, pour faire avancer ses plans, se servit d'hommes, d'Églises, en leur forçant quelque peu la main. Toutefois, rien ne nous oblige d'attendre une persécution pour commencer à nous disperser pour la cause du royaume. Mais vous savez, Jésus ne s'est pas trompé quand il comparait son Église à un troupeau de moutons. Les moutons ont la caractéristique d'être grégaires, ils restent en groupe. Eh bien, l'Église, c'est un peu pareil. Nous restons groupés quand le Seigneur voudrait nous disperser. Et nous disperser est souvent qualifié de division. Frère, vous voulez diviser l'Église quand Dieu nous dit, lui, moi je veux la disperser. Alors je dis, n'attendons pas que le Seigneur nous pousse dehors par une circonstance fâcheuse pour commencer à nous disperser, mais devançons ce moment de la tribulation parce que nous avons le désir, non pas d'être des missionnaires malgré eux, une église missionnaire malgré elle, mais une église missionnaire intentionnellement. Ainsi, plus contraints que volontaires, des disciples quittèrent Jérusalem pour aller parmi les nations comme Jésus l'avait ordonné. Cependant, regardez à la fin du verset 19, il est écrit que ceux-là, qui venaient de Jérusalem, ne prêchèrent l'Évangile seulement qu'aux Juifs. Et ces hommes, même s'ils avaient quitté Jérusalem, étaient encore tout entiers dans leur schéma de pensée, l'Évangile, c'est pour les Juifs. Heureusement que Dieu suscita alors des anticonformistes, au tempérament audacieux et surtout motivés par le Saint-Esprit. On ne connaît rien d'eux, ni leur nom, ni leur nombre. On sait simplement qu'ils étaient des disciples passionnés de Jésus. Ils étaient aussi juifs, mais eux venaient de Chypre et d'Afrique du Nord. Ils n'étaient pas donc parmi ceux qui avaient quitté Jérusalem à cause de la persécution. On peut concevoir qu'ils étaient ceux qui étaient les fruits de l'évangélisation des missionnaires malgré eux. Et ces gens, venant de Chypre et d'Afrique du Nord, étaient juifs, maintenant convertis à Jésus-Christ. Et toute leur vie, ils avaient vécu dans un contexte païen, au milieu, parmi les non-juifs. Ils étaient habitués à leur manière de vivre. Et certainement, ils étaient habitués à rentrer régulièrement en contact avec eux. Quelque part, ils étaient beaucoup moins inhibés par des siècles de lois d'exclusion. Parce que pour les Juifs, il y avait une réelle séparation. La loi l'établissait entre eux et le reste des peuples. Au point qu'il était impossible pour un Juif d'imaginer de manger avec un païen, même de rentrer dans la maison d'un païen, ou même de serrer la main ou avec un païen. C'était impossible. Mais ces Juifs venant de Chypre, eux avaient certainement moins d'inhibition parce que le contexte était différent. Laissez-moi vous dire que beaucoup dans l'Église sont inhibés. Par trop d'années passées dans l'Église, nous sommes inhibés à l'égard de tout contact avec les gens de l'extérieur. Nous ne savons plus comment les aborder. Nous ne savons plus comment parler avec eux. Il y a peut-être très longtemps que nous n'avons pas mis la main, les pieds chez un païen. Nous n'avons pas mangé avec des païens, je le dis comme ça, pour me rester dans le contexte. Et quelque part, on est un peu gêné. Alors Dieu utilise des anticonformistes. Et parmi ces gens, fruits de la mission, certains arrivèrent aussi à Antioche. Et là, sans ministère apostolique particulier, sans vision extatique comme celle que Pierre avait eue avec la nappe descendue du ciel, sans mandat de l'Église, ils osèrent prêcher l'Évangile à des non-juifs. En plus, avec des résultats probants. Et ces anonymes furent ainsi les initiateurs d'un mouvement missionnaire dont ils ne pouvaient soupçonner l'ampleur à venir à travers les siècles et les nations. Ils sont les déclencheurs de la mission. Trois leçons de leur exemple. Leur exemple nous montre que l'Église missionnaire doit transcender son contexte initial. Malgré leur dispersion parmi les Grecs et les nations, les disciples de Judée et de Jérusalem étaient encore pris dans leur paradigme ethnique, culturel et religieux et ils n'arrivaient pas à sortir de leurs habitudes. Et à cause de cela, ils limitaient l'expansion de l'Évangile à leur schéma de pensée, seulement comme ça. Les disciples de Chypre et d'Afrique, habitués à côtoyer les Grecs, n'eurent pas de mal à dépasser leur contexte pour aller vers les habitants des villes et d'Antioche particulièrement. Il nous appartient, si nous voulons remplir notre mission, de dépasser bien sûr le contexte des murs de notre Église, mais le contexte aussi de nos traditions et de nos habitudes, parce que ce n'est pas avec ce contexte étroit et limité que nous pourrons atteindre les habitants de cette ville de Paris. Deuxième leçon, l'Église missionnaire brise des siècles de barrières religieuses, sociales et ethniques. L'Église missionnaire cherche à atteindre tous les hommes et elle n'a que faire des distinctions que les religions, les politiques, le racisme même va dresser entre les hommes. Enfin, troisième chose, nous le voyons avec eux, l'Église missionnaire est intentionnelle. Les disciples originaires de Judée et de Jérusalem étaient arrivés à Chypre, au Liban et à Antioche, presque malgré eux, je le disais. Par contre, ceux de Chypre, d'Afrique du Nord, ont choisi, voulu préparer la mission. Ils n'ont pas subi la mission, ils l'ont provoquée. Que de grâce et de percée spirituelle lorsque le Saint-Esprit trouve des gens suffisamment motivés pour devenir intentionnels, volontaires. Et c'est alors, comme nous le montre le verset 21, qu'il déploie sa main. Il étend sa main et il s'accomplit des choses extraordinaires. Vous savez pourquoi il peut étendre sa main ? Sur les gens qui nous entourent, sur les populations qui ne connaissent pas Jésus, parce que sa main n'est pas occupée à pousser l'Église. Quand sa main est occupée à pousser l'Église, allez, il faut y aller les gars, eh bien, elle n'est pas disponible pour être étendue sur les païens. C'est une image que je donne, mais qu'elle puisse nous faire réfléchir malgré tout. Alors j'ai cette observation. C'est souvent avec ceux qui ne sont pas, entre guillemets, du bercail, que Dieu opère les percées les plus spectaculaires. Ce fut vrai avec les disciples chypriotes et nord-africains. Ils n'avaient rien à voir avec Jérusalem. Ce fut vrai aussi un peu plus tard avec un certain Saul de Tarse, qui ne connaissait pratiquement pas les apôtres au début de son ministère et pendant des années encore, et qui n'avait quasiment aucun lien avec l'église de Jérusalem, ses liens, c'était avec l'église d'Antioche. Dieu opère des percées avec ceux qui ne sont pas du bercail. Quand on ne trimballe pas avec soi toute une culture et un historique, c'est beaucoup plus facile d'être intentionnel, d'être innovant et de franchir les barrières. C'est pour cela que Dieu se sert d'hommes sortis d'on ne sait où. D'où ils viennent ceux-là? Ils ne sont pas membres de l'Église. Ils viennent de quelle Église? On ne sait pas. Ils arrivent comme ça. Du coup, forcément, ils dérangent. Parce qu'ils ne parlent pas le même patois que nous. Et en plus, ils ont des approches et des méthodes différentes des nôtres. Qui nous remettent en cause dans notre façon de faire les choses, parce qu'en plus, ils ont du résultat. Notre défi, pour nous chrétiens de Pentecôte, et particulièrement des assemblées de Dieu, est de savoir, tout en respectant notre passé, le dépasser et nous réinventer. Et tout comme Paul disait qu'il était hébreu, né d'hébreu, que ça lui donnait la légitimité pour juger de la situation spirituelle de ses compatriotes juifs, étant moi-même fils et petit-fils des pasteurs, deux pasteurs des assemblées de Dieu, j'ai aussi une certaine légitimité pour dire que nous croulons et nous étouffons sous des années de tradition et de culture qui parfois semblent être même des siècles. Je vais vous dire, ce n'était pas facile, même pour moi, même quand j'en ai le désir, de m'affranchir de toute cette culture, de toute cette histoire, mais c'est incontournable. Parce que je ne veux pas perdre le chandelier missionnaire et apostolique. On vient donc de parler d'une église missionnaire malgré elle, celle de Jérusalem, et puis ensuite d'une église missionnaire intentionnellement, celle d'Antioche, et nous voyons aussi que cette église d'Antioche fut conduite par des leaders avec une vision missionnaire. Nous voyons au verset 22, et c'est la troisième fois au moins que ça arrive. La première fois, ça avait été à cause du réveil à Samarie, la deuxième fois à cause de ce qui s'est passé chez Corneille, et maintenant la troisième fois à cause de ce qui se passe à Antioche, un bruit arrive jusqu'à Jérusalem. Les apôtres apprennent ce qui se passe à Antioche. Et alors, ils réagissent, il faut faire quelque chose. Vous savez, souvent, les églises sont en retard d'un bruit. Quand il se passe quelque chose, on en a les échos. Et puis on se dit, il faut aller voir absolument ce qui se passe. Il y a peut-être quelque chose à faire là, il faut quand même. Et alors, l'une des choses les plus difficiles à ce moment-là est de choisir le bon gars pour le bon job. Qui allait-il envoyer? Imaginez le contexte d'Antioche, je ne l'ai pas décrit, vous pourrez le trouver facilement sur Internet. Antioche de Syrie, troisième plus grande ville de l'Empire romain à l'époque, était la capitale mondiale de la dépravation. Voilà. Donc c'était vraiment un lieu immoral, païen, et tout ce que vous voulez. Et on ne veut surtout pas savoir, à vrai dire. Et en plus, on a là une église complètement différente des autres, parce que pour la première fois, on a une église qui rassemble des juifs et des non-juifs. Alors imaginez que les frères à Jérusalem, se concertant pour comprendre ce qui se passe à Antioche, envoient ce brave frère bien connu de tous, bien droit dans ses bottes, avec des conceptions bien établies depuis longtemps. Et il l'envoie à Antioche. Eh bien, c'était s'assurer d'un massacre total de l'œuvre. Combien de réveils, de mouvements de l'esprit locaux ont malheureusement été victimes de ce genre de choix? On a envoyé des gens droits dans leurs bottes et qui sont venus piétiner les premiers fruits de l'œuvre du Saint-Esprit. Heureusement, les apôtres étaient des hommes pleins d'Esprit Saint. Et ils ont choisi le bon gars. Ils ont choisi Barnabas. Et je crois qu'ils l'ont choisi intentionnellement. Ils ne comprenaient pas trop ce qui se passait à Antioche, mais vraiment, ils ont été conduits par le Seigneur. Barnabas était l'homme de la situation. À cause de ses qualités morales et spirituelles, c'est un homme d'encouragement, de générosité, de foi, de vision, de sagesse, un homme plein d'Esprit Saint. Mais c'était aussi un homme avec une histoire personnelle. Il était juif, mais chypriote aussi. Il avait donc grandi dans un contexte grec, tout en étant attaché à sa foi. Et à cause de cela, nous pouvons dire qu'il était l'homme de la situation, parce qu'il était en quelque sorte l'un des leurs. Il pouvait comprendre à la fois ses disciples partis de Chypre pour témoigner de Jésus à Antioche, mais ça ne lui posait pas de problème d'entrer en relation avec les nouveaux chrétiens d'origine païenne qui se tournaient vers le Seigneur dans cette église. Et alors j'aime beaucoup Barnabas, et là encore toute la qualité de son caractère et explose en quelques paroles. Quand il arrive à Antioche, la première chose qu'il fait, c'est de voir. Et là, je peux vous dire qu'il en faut des qualités morales et spirituelles pour se contenter de voir. Parce qu'il arrive bien des cas où ceux qui sont envoyés viennent surtout pour redresser. Parce qu'ils n'ont pas besoin de voir, ils savent déjà. Donc il faut remettre les choses à plomb. Barnabas, lui, est venu et il l'a vu. Et surtout, le texte le dit, il vit la grâce de Dieu. Et je vais vous dire, ce n'est pas facile de voir la grâce de Dieu dans des choses qui sont différentes de celles que nous avons l'habitude de voir. Parce que Dieu opérait d'une manière différente à Antioche que celle qu'il avait opérée à Jérusalem. Et il aurait pu dire, mais ça, à Antioche, nous ne l'avons pas vécu à Jérusalem. Ça ne se faisait pas comme ça à Jérusalem. Est-ce que ça vient de Dieu? Non. Lui, même dans ces choses différentes, il a vu la grâce de Dieu. Il a vu le Seigneur à l'œuvre. Il n'a pas dit, c'est pas conforme à nos standards. Non, il a choisi de voir la grâce de Dieu. Et le texte dit qu'il s'en est réjoui. Encore une fois, je connais tant d'exemples où, incapables de voir la grâce de Dieu sous une forme différente, des églises, des pasteurs, des ministères ont éteint les feux de l'esprit. Barnabas avait vu. Pour autant, sa mission n'était pas finie. Et il ne rentra pas à Jérusalem pour faire son rapport parce que lui aussi avait été quelque part comme contaminé par la joie et la grâce du Seigneur qui se manifestait dans cette ville et dans ses assemblées. Alors, il s'attacha à eux. Et la première chose qu'il fit ensuite, c'est les encourager. Il n'est pas venu pour leur dire, bon, c'est pas mal ce que vous faites, mais on va faire différemment hein, quand même. On va remettre les choses à plomb. Non, il les a encouragés. Les gars, ce que vous faites, c'est bien. Continuez. Dieu est avec nous. Dieu nous bénit. On va aller plus loin ensemble. Et il s'est attaché à eux. Et plus encore, pris par cette ferveur, il va même jeter de l'huile d'Esprit Saint sur le feu en allant chercher celui que tout le monde avait oublié. À cause du ministère puissant du Saint-Esprit, parmi eux, l'Église grandit. Le texte dit, c'est l'expression littérale traduite en français, il y avait là une multitude géante. Vous imaginez, multitude géante, au sujet de la foule de chrétiens à Antioche. Il dit, là, Barnabas s'est dit, ça encore, c'est son humilité, je ne vais pas pouvoir arriver à faire tout seul. Il me faut quelqu'un. Cherchez le bon gars. Oh, ça, on en parle avec les pasteurs. Hein. C'est jamais évident de trouver le bon compagnon. Et avec Barnabas pour faire ça. Il n'est pas retourné à Jérusalem. Il est allé à l'opposé, à Tars, pour aller chercher ce fameux Saul et le ramener avec lui. Quelle vision. Saul qui n'avait rien à voir avec les gars de Jérusalem, qui n'avait rien à voir avec la maison mère, qui était presque un franc-tireur, un gars dont on se méfiait encore, il est allé le chercher. Quelle vision! Un ministère décrié, certainement Saul, un ministère pas authentifié, pas certifié, pas conforme. Mais ensemble, ils ont formé la père missionnaire la plus extraordinaire que la Bible et l'histoire de l'Église n'aient jamais connue. Nos églises ont besoin de disciples intentionnels qui acceptent de transcender leur histoire, leur culture, pour se dire l'important, ce n'est pas ce que nous vivons à l'intérieur, mais l'important, c'est tous ces gens qui sont à l'extérieur et ne connaissent pas encore l'Évangile. Paul le dit, je me suis fait tout à tous, alors je veux les atteindre, je veux dépasser ce cadre, je veux être volontairement missionnaire. Et c'est avec vous, avec nous, que Dieu veut travailler premièrement. Dans le contexte d'Antioche, Dieu n'a pas choisi d'abord Barnabas et Saul, il a d'abord utilisé des gens tout simples. Vous êtes ces gens. Si vous acceptez de rentrer dans la vision du Seigneur. Et puis après, Dieu a suscité des hommes pour les conduire, des hommes qui eux-mêmes étaient capables de transcender leur culture. Des siècles de tradition pour dire on va faire différemment parce que nous sommes dans un contexte différent, parce que le plus important, c'est la mission et le salut des âmes. Et voilà que Barnabas et Saul sont arrivés. Et ce texte finit sur cette parole qu'au bout d'un an de travail dans cette ville, les gens d'Antioche ont remarqué qu'il y avait un groupe de plus en plus nombreux au milieu d'eux. Ils étaient juifs d'origine, mais il n'y avait pas que des juifs. Pourtant, ils parlaient souvent de l'histoire juive et de la Bible juive. Mais ils parlaient aussi d'un autre qu'on appelait le Christ. Alors, ils se sont dit, tiens, on va les appeler les chrétiens. Au début, c'était un sobriquet, hein, parce que Christ, ça veut dire oint. Si, pour vous dire un peu l'esprit du sobriquet, aujourd'hui, on dirait les gominés. Hein, ceux qui ont passé du gel sur la tête. Je ne vais pas dire les gelleux, ce n'est pas joli. Les gominés. Alors oui, c'était un sobriquet, mais ça en dit long sur l'impact que ce groupe de frères et de sœurs ont eu sur la ville. Parce que quand on donne un sobriquet à partir du moment où il y a quelqu'un qui se fait remarquer... Et ils avaient retenu l'essentiel. Ceux-là, ils sont du parti de Christ. Ceux-là, ils nous annoncent Christ. Ils ne nous annoncent pas telle ou telle bénédiction, ils ne nous annoncent pas telle ou telle chose, non, ils sont de Christ. Qu'on puisse un jour se rappeler de notre Église comme celle qui annonce Jésus-Christ. Au début, on appelait les chrétiens de Pentecôte les Alléluia. Qu'on puisse un jour nous donner un sobriquet, parce que par la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit, nous aurons remué cette ville. Mes frères et sœurs, l'année prochaine, nous faisons le choix de ne pas attendre la persécution. Nous faisons le choix de ne pas attendre d'être tellement nombreux qu'un jour on va vraiment avoir un problème, un accident dans l'église, au point que la mairie ou la préfecture nous disent « Eh les gars, maintenant ça suffit. On se fâche, vous êtes trop nombreux, on vous menace de fermer les locaux. » Ça pourrait nous arriver. Et j'y verrai pas une action du diable, j'y verrai une action de Jésus-Christ qui nous dit « Bon, ben oui, ben vous avez... Vous êtes encore là. » Parce que des fois, on veut toujours mettre sur le diable parce que ça nous évite de nous remettre en cause. Quand c'est des fois le Seigneur qui poum, alors je n'ai pas envie d'attendre qu'il y ait une grosse tuile qui nous tombe sur la tête. J'ai envie qu'on se sépare à la manière de l'Évangile. Et qu'ensemble, on se donne la main d'association pour aller plus loin. Et je vous remercie parce que je crois qu'il y a peu d'églises en France qui sont capables de faire ça, de rentrer dans un projet où on ne sera plus tous ensemble. Oh Seigneur, on ne sera plus ensemble, on ne sera plus ensemble. Dans les premières statistiques que je vois du sondage qui porte déjà sur presque 40% des bulletins, n'hésitez pas à porter le vôtre aussi. Plus de la moitié de l'église, d'entre vous, vous êtes prêts à partir. Alors je ne dis pas que la moitié qui va rester ici, vous allez vous la couler douce maintenant, hein. Oh là, les excités sont partis. Non, Bastille, c'est un moteur. On va prendre un temps pour souffler un petit peu. Mais ici, il faut que ça reste un moteur. On va continuer à travailler parce que le Seigneur nous ouvre le 11e, alors il ne faut pas s'arrêter maintenant. Hein. Et puis à République, on va aller de l'avant. Parce qu'on veut le salut des Parisiens. Le Seigneur place devant nous une grande mission. Et je sais que vous êtes prêts à la relever. On n'attendra pas la tribulation. On en veut aller de l'avant. Et les disciples d'Antioche n'ont pas été des missionnaires malgré eux, ils ont été des missionnaires intentionnels. Puissions-nous, nous aussi, être intentionnels dans notre désir de servir Dieu et notre ville. Amen. Père notre Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ces exemples, l'Église de Jérusalem, merveilleuse Église qui a grandi, qui a rempli la ville du témoignage de l'Évangile, qui a traversé des persécutions, et merveilleuse Église d'Antioche, fondée par ces gens simples, ces disciples audacieux, motivés par le Saint-Esprit et désireux de remplir leur vocation, leur mission. Et Père, nous voulons être dans cet état d'esprit. Nous te remercions pour tout ce que nous avons vécu jusqu'à présent dans ce lieu, mais maintenant c'est un nouveau temps et tu nous appelles, Seigneur, un peu à nous disperser et à commencer à remplir cette ville. Et moi, je veux rêver que ça ne soit pas une dispersion simplement en deux lieux, mais que nous nous dispersions de plus en plus, pour qu'il y ait de plus en plus de feu qui s'allume dans cette ville. Seigneur, que ça soit comme un brasier. Ça ne soit, Seigneur, le souffle de l'Esprit qui passe au milieu de nous et qui prend des braises. Seigneur, fais de chacun d'entre nous une braise pour allumer des feux dans cette ville et dans ces banlieues. Alors nous te disons, mon Père, aide-nous à nous débarrasser de tout ce qui pourrait nous inhiber, de toutes nos traditions, nos lourdeurs qui sont là. Et Seigneur, que nous soyons simplement libres pour accomplir volontairement la mission que tu nous donnes. Nous ne voulons pas, Seigneur, que ta main soit simplement là pour nous pousser, mais que ta main soit, Seigneur, sur ceux vers qui tu nous envoies, afin qu'un grand nombre se convertisse. À toi toute la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous accompagne dans sa grâce tout au long de cette semaine.